Vous êtes au 102.1, le retour de Boulevard, votre émission pour vous raccompagner en fin de journée. On vous accompagne évidemment avec les points de chute habituels, météo, info, route, actualité. D'ailleurs, petit survol rapide de la météo, le temps de vous dire qu'on a une magnifique journée, belle fin de journée sur Québec. 27 ressentis avec le facteur humidex actuellement, alternance entre soleil et nuages. Mais c'est des beaux nuages là, en ce moment.
C'est les nuages du générique des Simpsons.
C'est exactement ça, des nuages Simpsons qu'on a en ce moment sur la ville de Québec. Faible probabilité d'averse au courant de la soirée. Peut-être un orage, mais tu sais, ça, je pense qu'on l'annonce tout le temps au cas où, étant donné que l'humidex est assez élevé. Demain, 17 avec des nuages. Peut-être quelques petites averses, mais on n'a pas de pourcentage, donc très faible. Samedi, des nuages avec 21. Et après ça, le soleil qui revient. Et en grande forme, là, dimanche, lundi, mardi, entre 23 et 28 degrés attendus sur Québec. Je suis tombé là-dessus hier, les filles, pendant la journée de congé, puis j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Moi, j'aime bien l'histoire dans la vie. C'est une matière que j'affectionnais beaucoup à l'école, entre autres mes 6 années de cégep. c'est concernant la ceinture de sécurité, parce qu'on souligne cette année le 50e anniversaire du port obligatoire de la ceinture ici. À Québec.
C'est pour le 50e anniversaire, là, avec mon histoire de 25 ans, je suis mêlée. Là. Fait que 50 ans, c'est quoi? C'est 76?
76. C'était le 1er juin 1976 que cette loi-là était adoptée, entrée en vigueur l'obligation à l'avant pour les véhicules de promenade. OK? Et il y a différentes étapes là-dedans.
Je viens d'avoir des flashbacks assis en arrière dans le char de mes grands-parents.
Ah, on pouvait se promener.
Ben oui.
Ah ouais, on pouvait se coucher, on faisait des dodos.
Ben c'était des banquettes, là. Oui. C'était deux banquettes dans les autos, là, à l'époque.
En avant puis en arrière.
Ben en avant puis en arrière. Puis tu sais, moi, j'ai connu ça parce que mes parents, ils ont eu un Pontiac 6000. Là, pour les jeunes qui nous écoutent, Pontiac, ça a déjà été des voitures qui ont été vendues ici au Québec. Marque automobile qui n'existe même plus. Puis c'est ça, c'était deux grosses banquettes. C'était deux divans. T'avais un divan en avant, t'avais un divan en arrière. Puis même qu'à une époque, sur le divan en avant, il y avait trois ceintures aussi. Il y en avait une au milieu.
On se chicanait pour s'asseoir en avant. Puis on n'avait pas les grandeurs réglementaires. Tu sais, maintenant, t'as des coussins gonflables. Tu peux pas asseoir des enfants en bas
c'est
d'une telle grandeur.
Ouais. Pis,
c'était cow-boy sur un moyen temps.
Et puis la place au milieu, en avant, dans un char, parle-moi du pire spot où tu veux pas être. S'il y a un accident.
Non,
mais non,
tu
mais
sais,
non.
Pas. C'est épouvantable.
Si on partait faire des tours de machine, je sais oui. pas pour vous autres, mais oui. on allait se promener dans les rangs, c'est n'importe quoi.
Ah oui, mais
j'ai survécu à mon enfance.
C'était une autre époque, puis une époque où les machines, il y en avait une par famille
ben
aussi.
Oui.
Donc, il y en avait beaucoup moins sur les routes. Fait que j'ai fait l'exercice de retracer un peu l'histoire de la ceinture. C'est un Américain, Edward G. Clargan, qui est le premier à faire breveter cette invention-là, ceinture de sécurité, pour les passagers d'un véhicule en mouvement. La première version, évidemment, c'est excessivement rudimentaire. Là. Ça se veut être une corde muni d'un crochet qui s'attache à un objet fixe. C'est la description qu'on a dans le brevet. L'objet fixe devait donc être fixe dans le véhicule qui, lui, était en mouvement et avoir la possibilité d'attacher et détacher le crochet.
Mais qu'est-ce qu'on entend par objet fixe? C'était la porte?
C'était un anneau. C'était n'importe quel anneau qui permettait, qui était fixe dans le véhicule, dans la structure du véhicule.
Okay.
Fait qu'est-ce que c'était un anneau? Mais tu sais, on était loin encore du système à crochet que nous, on a aujourd'hui avec la clip.
Ou de la ceinture qui passe d'une épaule à la hanche aussi.
Parce que là, ça, c'était la ceinture à la taille. Puis
oui.
tu sais, ça, moi, j'ai 39 ans, mais j'ai vécu ça, la ceinture à la taille seulement. Là.
Il y a des gens qui devaient mourir coupés en deux.
Ben écoute, c'était, tu sais, je me souviens encore. C'est la mémoire olfactive, là.
Les sièges en velours avec la cigarette puis l'humidité.
On parle de ça, puis j'ai l'odeur du Ford Tempo à mon père. OK, Ford Tempo, pour les jeunes qui nous écoutent, non, ça n'a pas toujours été des abris d'auto. Ça a déjà été un modèle de
très
Ford
à la mode.
Aussi. Très, très à la mode. Puis il y avait l'équivalent Mercury à cette époque-là, puis c'était le Mercury Topaz.
Oh oui,
c'est vrai. C'est vrai. Fait qu'il y avait les deux sortes de véhicules. Les premières ceintures apparaissent dans l'aviation au début du 20e siècle, donc après le brevet de cet Américain. Dans les automobiles, c'est très, très rare jusqu'au début des années 50. Et c'est en 59 que ça arrive pour vrai. C'est un ingénieur suédois qui travaillait pour Volvo qui, lui, invente la ceinture à 3 ancrages. Donc là, lui, arrive avec le modèle qu'on connaît encore aujourd'hui qui est révolutionnaire. Et la décision qu'il prend, même en travaillant pour Volvo, c'est de dire « Moi, je rends le brevet libre ». Parce que je me rends compte rapidement que cette invention-là peut sauver des vies. Mm. Puis je pense que c'est bien mieux que toutes les marques automobiles mettent ce genre de ceinture-là, ce genre de dispositif-là dans leur véhicule.
Fait que les 3 ancrages, c'est justement, ça va être l'épaule, ça va être une ceinture qui passe ensuite de ça, de la hanche droite à la hanche gauche.
En plein ça, exactement. Ouais. Donc, ça fait l'espèce de triangle, ouais, taille à taille avec l'épaule au-dessus. Il y a énormément de résistance dans les années 60-70. Plusieurs automobilistes qui s'opposent à ça. Les arguments, c'est ça limite ma liberté. Je vais être prisonnier dans l'auto en cas d'incendie. Je conduis bien, j'ai pas besoin de tout ça. C'est inconfortable. Quand arrive la fameuse ceinture avec l'œillet, donc qu'on connaît encore aujourd'hui. Quand je parle de yes, c'est le carré en métal qui va rentrer dans le petit bout de plastique et là, on entend le clip. Dans les années 60-70, c'était beaucoup plus utilisé pour décapsuler les bières
Pour
s'attacher,
les bières de route,
à proprement dit, pour les bonnes bières de route.
Quand tu t'assoyais en avant avec tes parents, j'imagine que tu étais responsable de tenir la bière.
Ben, c'est... Puis quand on parle de liberté, j'ai fouillé un peu là-dessus, puis c'était principalement ça. Quand les gens disent « ça brime ma liberté », c'est que les gens sentaient qu'ils n'étaient pas capables de se déplacer dans le véhicule pendant qu'ils conduisaient pour aller fouiller dans le coffre à gaz.
C'est extrêmement dangereux, ben oui.
Pour aller, souvenez-vous, peser sur l'allume-cigarette qui était au milieu entre les deux bancs.
Ben oui.
L'allume-cigarette qui, quand popait... Tu sais, quand elle sortait du trou, après un certain nombre d'années de ton véhicule, il restait pas en place, là.
C'est vrai?
Il popait puis il revolait dans le fond du champ. Fait que là, tu te dépêchais à le ramasser pour pas que le feu pogne après la banquette.
Fait que là, tu vas te pogner.
Là,
si
t'es attaché. Puis là, ben, si t'es attaché puis il y a un feu à cause de ton allume-cigarette, c'est la ceinture qui va te tuer parce que t'es attaché dans l'auto.
Là, là. Selon les modèles de véhicules, il y en a qui avaient le cendrier qui était entre les deux sièges.
Oui.
Puis il y avait des véhicules où c'était carrément. Souvenez-vous, dans la porte.
Dans la porte.
Oh mon Dieu, j'ai connu ça.
Le petit panneau de métal qui
tournait. Il y avait une petite trappe. Il y avait une petite trappe qui s'ouvrait puis qui se tournait, puis après ça, le petit carré de métal au complet s'enlevait, le petit cube de métal pour que tu puisses le vider à l'extérieur.
Tandis que celui au milieu, c'était comme un tiroir que tu pouvais sortir et ensuite de ça, vider ça allègrement dans un stationnement.
Ben oui, sac ça par la fenêtre. C'était la belle époque.
Une autre époque quand même. Hein? Puis cette époque-là où c'est ça, les hommes, les femmes fumaient à l'intérieur de la voiture. Et les madames demandaient aux enfants de ne pas ouvrir les fenêtres parce que ça défaisait leur brushing.
Exact.
Fait que c'est ça. On a connu ça à cette époque-là. Le Québec est quand même devenu l'une des premières juridictions nord-américaines à imposer le port de la ceinture. On est donc le 1er juin 1976. Le port de la ceinture devient obligatoire, mais pour tous les conducteurs et les passagers assis à l'avant. Il va falloir qu'on attende jusqu'en 1990 quand même pour qu'on étende cette règle-là aux passagers arrière aussi. Au début, le taux d'utilisation tournait autour de 50 %. Aujourd'hui, c'est 98 % des Québécois qui portent la ceinture. Quand on fouille du côté de la SAAQ, en 2026, pour le 50e anniversaire, l'organisme estime que jusqu'à 4500 vies supplémentaires auraient pu être sauvées si tout le monde avait porté sa ceinture dès le départ en 1976. Fait qu'en 76 et aujourd'hui, en 50 ans, c'est plus de 4000 vies qui auraient pu être sauvées. La ceinture réduit d'environ 50 % le risque de décès ou de blessures graves lors d'une collision. Et pourtant, 30 % des personnes qui perdent la vie dans un accident ne sont pas attachées. 30 % des personnes qui décèdent ne sont pas attachées.
On n'a pas les âges, hein?
Non, j'ai pas les âges. Par contre, j'ai fouillé à savoir, est-ce qu'on inclut là-dedans les motos? Parce que là, vous jouez avec les mots. Non, les motos ne sont pas inclus. C'est vraiment des véhicules dans lesquels il y aurait des ceintures. C'est quand même 30 %. Je trouve que c'est énorme. Le port de la ceinture à l'arrière a longtemps été controversé. Beaucoup de gens croyaient qu'être assis à l'arrière était automatiquement sécuritaire. Or, lors d'un impact à 50 km/h, écoutez bien ça, un passager non attaché à l'arrière peut être projeté vers l'avant, évidemment, avec une force énorme et donc blesser gravement les occupants à l'avant du véhicule aussi.
En plus de se blesser.
En plus de se blesser, c'est la raison de l'imposition de la loi en 1990.
Vous souvenez-vous de la série Mythbusters à cette Discovery, je pense, qui présentait ça au TLC? À un moment donné, il avait fait un test avec un véhicule puis différents objets pour savoir justement à quel point ça devenait carrément une arme puis que ça pouvait blesser. Puis quelque chose d'aussi banal qu'une boîte de Kleenex pour un impact à une vitesse, mettons, d'autoroute.
Oui,
là,
je me rappelle
ça
de cet épisode-là.
Ça devient hyper dangereux. Puis ça, eux autres, ils ont tout testé, là, des coffres à outils, des affaires super weird. Mais moi, ça m'avait marqué de savoir
aussi,
qu'une boîte de Kleenex était dangereux.
On a tous et toutes la fameuse boîte de Kleenex qu'on ne sait jamais où exactement dans l'auto, là, se promène.
La petite
et
qui
est toute massacrée.
C'est bien fun.
Ouais, ben c'est ça qu'on devrait faire.
Ben celle-là, puis je me souviens que dans Mythbusters aussi, dans cet épisode-là, on suggérait fortement le petit paquet qu'on achète à la pharmacie de Kleenex là, en plastique pour le mettre dans le coffre à gants. Coffre à gants, d'ailleurs, soit dit en passant, qui dans toutes les autos dans lesquelles j'ai été dans ma vie.
Il n'y a jamais eu de gants dedans?
Il n'y a jamais eu de gants dans le coffre à gants.
Non, c'est vrai. Moi non plus,
je ne sais pas pourquoi on appelle ça le coffre à gants, mais ça, c'est un autre.
C'est un coffre à manuel d'instruction du char.
Oui.
Papiers d'assurance.
Et les papiers d'assurance et immatriculation, that's it.
C'est un coffre à cossin. Tu mets des cossins
là-dedans.
Ma mère
là-dedans. M'a fait mon petit kit de survie au cas où je reste en panne dans le parc des Laurentides avec une chandelle, un lighter.
T'as-tu un petit ange aussi? Là? Nous autres, on a un petit ange dans l'auto.
Oui,
là,
moi j'ai ça.
La famille. Mais c'est à l'époque où les gens portaient des gants beaucoup, mais il y a des affaires qui... Il n'y a pas de compartiment à chapeau non plus dans nos voitures.
Non, non, pourtant, c'est ça.
Mais
effectivement.
Le coffre à gants est
resté. Mais le coffre à gants, lui, est resté. Mais je reviendrai peut-être avec une autre chronique sur le coffre à gants où on demandera peut-être à notre collègue Alex Michaud quand il va être de passage en studio, s'il y a des détails sur le coffre à gants. Mais tout ça pour vous dire que je suis tombé là-dessus hier. Je trouvais ça intéressant d'amener ça en nombre, principalement parce que c'est le début des vacances d'été, principalement parce que vous allez prendre la route énormément. Puis on veut pas du tout être moralisateur. C'est vraiment
ben
pas
non.
ça l'objectif. Mais juste un petit rappel. Des fois, ça va vite dans l'excitation de partir en vacances. Vous partez, puis là, vous vous dites, oh, je vais l'attacher rendu au coin de la rue chez nous. Puis souvent, ben la majorité des accidents arrivent dans un périmètre d'un kilomètre autour de votre maison, de
c'est
votre
vrai.
Propriété. Fait que juste un petit rappel. Ça fait 50 ans déjà qu'on l'a imposé. Prenez pas de chance. Attachez-vous.
Il y a des auditeurs qui nous écrivent. Il y a Isabelle qui dit, oui, il y a des vies certes, mais il y a aussi les traumatismes. Crânien. On n'a même pas parlé des blessures.
Oui.
Puis elle donne l'exemple notamment du frère de Martin Matt là, qu'on a vu dans Vitrerie
Joyale.
Mm-hmm. On a aussi un commentaire de Yann qui nous disait qu'avec les voitures récentes, si tu ne t'attaches pas, de toute façon, il y a un bruit vraiment gossant. Fait que tu finis par t'attacher.
J'ai une très mauvaise habitude de me détacher quand j'entre dans le stationnement chez nous, puis je me suis tout à fait dire par des auditeurs, c'est la pire place pour enlever ta ceinture, parce que t'es jamais à l'abri que quelqu'un soit pas attentif, que tu tournes puis te rentres dans le derrière. Mais ça, le fameux bip-bip, là, en pognant la côte du parking, je l'entends toutes les fois.
Ah oui.
Je pourrais la garder, ma ceinture.
Ben
je pars
oui.
fin du monde. Je sortirais pas plus vite de l'auto. Là.
Ma mère était experte en sinistre toute sa carrière, compagnie d'assurance, puis c'est toujours ce qu'elle nous a dit. Les pires accidents, c'est dans les stationnements. C'est souvent là que ça arrive. Dans les stationnements, les gens reculent, la vision n'est pas la même, puis les gens se sentent en sécurité parce que là, ils sont arrivés à la maison.
Ouais.
Mais dans un stationnement ou dans les stationnements de centre d'achat aussi, ça peut arriver. Puis souvent, on se dit c'est un stationnement, ça ne roulera pas si vite, mais les gens roulent vite dans
les parkings. Les gens roulent vite, ils respectent. Ils pensent que les espaces de parking, s'ils sont libres, c'est une place pour rouler aussi. Je me suis fait rentrer dedans de cette manière-là par une madame qui allait chercher du shampoing.
Ah, c'est ça. Qui
allait chercher du shampoing. Moi, la seule fois que j'ai brisé une auto, c'était dans un stationnement en passant.
Ça arrive vraiment souvent.
Puis je suis quand même rentrée fort dans le petit poteau. Je ne l'avais pas vu, ça a cogné fort. Si je n'avais pas été attachée, je me serais fait bobo.
C'est vraiment fréquent. Puis effectivement, cette information-là sur le bip-bip, il y a beaucoup de modèles de voitures. Moi, ma voiture est comme ça en ce moment aussi, à l'arrêt complètement, si je ne suis pas attachée.
Hein?
Ouais.
Ah ouais.
Il me met les freins en face. Fait que je peux pas. Mais au départ, en fait, quand je suis stationné puis j'embraye, si la ceinture n'est pas attachée, il remet le véhicule sur le parc. Lui-même. Puis si je réussis à partir, parce que des fois, il doit avoir un petit bug, quelque chose, là, je sais pas trop. Mais des fois, je réussis à partir, puis je suis en train de reculer. Puis là, whoop, le véhicule freine d'un coup, puis il m'oblige à mettre la ceinture. Mais ça, c'est pour moi comme conducteur, ça le fait pas pour tous les passagers, par exemple.
T'sais, on parlait des objets flottants, là, parce que là, vous êtes peut-être en train de pacter le char parce que vous partez en vacances. Là. Un texto qui nous dit « Mon ancienne prof est décédée d'un accident d'auto en raison de sa boîte de mouchoirs. » Je sais pas si elle a cherché ou si la boîte a été propulsée. Parce que ça, c'est l'autre affaire. T'sais, des fois, c'est pas accessible, tu cherches puis tu deviens un danger. Quelqu'un d'autre qui nous texte, j'ai déjà fait un face-à-face, j'avais des disques de frein sur le banc arrière. Un des disques de frein s'est encastré dans le bloc moteur.
My God.
Passé au travers de l'habitacle.
Incroyable.
Fait que tu sais, c'est...
Hey, t'imagines-tu, hein?
Tu reçois ça, mettons, comment? Toi, là?
Ben non, mais c'est ça.
C'est fini, là.
C'est épouvantable. Mais c'est ça, des fois, c'est des réflexes qu'on a... habituel,
ben oui.
Parce que tu vas aller faire ton épicerie, fait que tu vas la déposer sur la banquette arrière au lieu de mettre ça dans le coffre parce que ça va plus vite. Fait que là, tu vas acheter des plaquettes de frein, tu vas faire la même affaire que d'habitude.
Ouais.
Mais finalement, tu es obligé de freiner rapidement. Il arrive ce genre de situation-là. T'sais, nous, on avait perdu une amie du secondaire parce qu'elle était en road trip pendant l'été, puis elle avait un bébé à l'arrière, puis à un moment donné, elle trouvait que l'appui-tête, c'était tannant. Fait qu'elle l'avait enlevé pour être capable de voir son bébé à l'arrière parce que la petite, elle pleurait tout le long, puis ils ont pogné un chevreuil, puis ça a été la fin de l'histoire. Là.
Oh, mon Dieu.
Mais tu sais, des fois, tu fais ça en disant « Ah, détache-toi deux minutes pour aller récupérer telle affaire », mais un impact arrive tellement rapidement que... Ça peut, niaisez pas avec ça.
Soyez
vraiment prudent.
Soyez prudent plus que moins. Là.
C'est ça.
Ça
c'est
vous enlèvera rien à part quoi? 3 secondes de votre vie.
C'est ça, en plein ça. Fait que c'est la période estivale. Soyez prudent. C'est le retour de Boulevard. C'est la formule qu'on vous propose pour la saison estivale. Donc, Pour vous, ça ne change pas grand-chose dans le sens où est-ce que c'est le même point de chute? C'est toujours la même antenne, 102.1. Vous pouvez l'écouter par la bonne vieille bande FM. Vous pouvez évidemment télécharger l'application qui est tout à fait gratuite, autant Android que sur iPhone. Puis vous pouvez nous écouter via notre web radio aussi. Donc, si vous êtes en travail ou en télétravail, bien, c'est facile. Vous ouvrez le blvd.fm, vous cliquez sur l'onglet qui va vous apparaître d'en face en arrivant sur le site Internet. Vous nous écoutez. Puis en même temps, bien, profitez-en pour aller faire un petit tour peut-être dans la section concours. Il y a toujours des concours super intéressants. Vous êtes déjà sur le site Internet de toute façon. Fait que faites d'une pierre deux coups. Nous, on est avec vous jusqu'à 18h pour vous accompagner. Véronique Bergeron, Anthony Niacarini, moi-même, Nathan Meilleur. Restez là, on vous revient de l'autre côté de la pause.
Ça commence là, cet après-midi, le Festibiaire de Lévis, qui est comme l'espèce de lancement de la période des vacances, de la période estivale dans la grande région de Québec, et ça se poursuit jusqu'à dimanche. 4 jours de festivités dans un concept Festibiaire plus, pour plus de fun, plus de saveur, plus de diversité, pour avoir encore plus le goût de boire du pays. Il y a le vin Souvenir officiel qui fait son grand retour aussi pour vos dégustations. Donc, allez profiter des découvertes, des saveurs, des spectacles, puis l'ambiance sur le bord du fleuve au Quai Paquette avec la vue magnifique de Québec qu'on a. Cette année, on ajoute encore plus de musique avec Matt Lang, Valère qui seront là, de même qu'un hommage au cow-boy fringant. Plus de diversité dans votre verre parce qu'on a augmenté le nombre de microbrasseries, de vignobles, de distilleries qui sont là et plus encore. Donc, d'aujourd'hui jusqu'au 28 juin au Quai Paquette, en mode découverte jusque dans votre verre, rassemblez vos amis, votre famille, venez célébrer le début de l'été au Festibiaire de Lévis. Les billets sont en vente au infofestibiaire.com, le Festibiaire de Lévis en collaboration avec la Ville de Lévis et Promutuelle Assurance. Trois pots.
Vous êtes à Boulevard 102.1, votre radio parlée à Québec. Et même si on est en formule estivale, eh bien, c'est sûr et certain qu'on conserve les points de chute habituels, c'est-à-dire vous informer, vous renseigner. C'est important pour nous, c'est pour ça qu'on est là. Donc, on fait un tour de l'actualité avec Véronique Bergeron.
Voilà, c'est fait. On a franchi un grand pas dans la réalisation du projet de troisième lien à l'Est. Je suis crédible.
On y a cru.
J'ai aimé ça que tu abandonnes avant la fin de ta phrase.
Pour on te laisser aller.
Pour la deuxième fois en moins de 5 mois, il y a un appel d'intérêt international pour la réalisation d'un troisième lien qui a été lancé. La différence entre celui de février et celui de maintenant, c'est sa situation par rapport au Haut-Ville. Donc là, on y est pour le troisième lien à l'Est. C'était l'engagement qui avait été pris par Christine Fréchette alors qu'elle était dans la course à la chefferie à la CAQ. Par contre, je vais lui donner ça. Vous êtes au courant que c'est la seule fois qu'on est allé consulter des chambres de commerce, des maires,
fou,
des
pareil,
préfets,
hein?
Pour établir quels étaient les véritables besoins. Fait que, on parle de troisième lien depuis maintenant une dizaine d'années. Puis en 10 ans, il n'y a personne qui avait pris le temps d'aller poser des questions, savoir bon ben pourquoi vous pensez que ce serait utile, pourquoi tel endroit, puis c'est quand même
ben
capoté.
Oui, ben oui, parce que la PDG de la Chambre de commerce de Lévis, elle avait dit, Mme Morancy, c'est la première fois que quelqu'un me consulte sur le tracé.
C'est fou, là!
Moi, j'étais tombée en bas de ma chaise. J'étais comme, c'est parce qu'on parle d'impact économique, puis on ne demande même pas à la Chambre de commerce.
La fameuse sécurité économique, hein, cet argument qui est arrivé comme ça pour la première fois il y a quelques années à peine. Donc, c'est un appel qui sera d'une durée de 45 jours. Il y a un rapport qui sera remis au gouvernement en novembre. Restera à voir quel gouvernement il sera. Puis c'est vraiment pour le tracé qui relie la route l'Allemand sur la rive sud à l'autoroute du Frémont-Morency du côté nord. Puis pour ce qui est des dettes, on n'en a pas. Ça va aller au printemps 2027. Fait qu'on demande un peu de voter à l'aveugle sur ce projet-là parce qu'encore une fois, l'élection générale dans la région de Québec, ce projet-là de troisième lien risque de faire partie des sujets de conversation. Le maire de Lévis, Stephen Blainey, il a dit qu'il accueillait favorablement ce lancement de l'appel d'intérêt, que c'était un pas enfin dans la bonne direction, surtout parce que du côté de Chaudière-Appalaches, on voyait beaucoup plus l'utilité d'un lien à l'Est. La CAQ qui a continué à faire des annonces de candidature. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va vivre la même chose qu'avant qu'on recommence à travailler à l'Assemblée nationale. C'était quasiment une annonce par jour pour Christine Fréchette jusqu'à ce qu'elle ait passé à travers son budget discrétionnaire. Là, on a quand même une trentaine de candidatures pour combler les circonscriptions où des députés et des ministres ont choisi de ne pas se présenter. Fait qu'un peu plus tôt aujourd'hui, on a présenté 2 candidates dans le secteur de Les Plaines et Terrebonne, donc Fatou Diop et Valérie Doyon. Là, le nom qui a commencé à circuler aussi, c'est un constitutionnaliste prof de droit à l'Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau, qui lui s'était déjà présenté pour le PQ en 2018, mais par la suite était devenu un conseiller du gouvernement. Il avait soutenu le projet de constitution de Simon-Jolin Barrette. Lui se présenterait donc dans Richemont, dans le secteur de l'Estrie. Et la CAQ qui a envoyé un communiqué au courant de la dernière heure pour une autre annonce demain, cette fois-ci dans le secteur de Saint-Jérôme. Fait que j'ai l'impression qu'on va essayer de prendre tout l'espace public avec les différentes candidatures, alors que les autres partis l'ont comme saupoudré au courant des derniers mois. Fait que c'est des gens qui travaillent déjà sur le terrain au moment où on se parle, mais ça attire peut-être moins l'attention à ce moment-là. Il y a l'opposition qui est sortie aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Québec, donc Stéphane Lachance, qui a dénoncé l'approche de Bruno Marchand sur les coûts de projet. Ça, c'est au retour d'Europe de Bruno Marchand, parce qu'il disait que quand on met sur la table un projet, on estime un prix, mais que par la suite, quand on a avancé un peu plus le travail, bien souvent, on se retrouve avec un prix qui va être différent, qui va être augmenté. Encore une fois, Stéphane Lachance qui dit que le maire est en train de préparer les citoyens au fait qu'on va sûrement annoncer des dépassements de coûts pour le tramway. Il a pointé du doigt aussi le projet de patinoire réfrigérée du côté de Duberger, où on a augmenté l'argent alloué afin de rajouter des services du côté de Duberger. Quand on en a parlé la semaine passée avec les auditeurs, on leur a demandé de nous texter en disant « Hey, c'est-tu essentiel qu'on rajoute, mettons que le foyer d'accueil soit pas juste pour le hockey, que ce soit aussi pour le baseball, qu'on installe ces différents services qui n'étaient pas là-bas. » Puis pour les gens qui vivaient à Duberger, ça semblait assez unanime que tant qu'à le faire, tant à le faire au complet.
Honnêtement, pour le vivre avec la patinoire du côté du parc Victoria,
qui est juste faite pour la patinoire, je pense.
Mais qui est juste faite pour la patinoire, mais qu'on a quand même, on a ajouté des paniers de basket aussi. Fait que l'été, ça devient des terrains de basket qui sont comme amovibles pendant la saison hivernale. Mais c'est sûr que le bâtiment qui a été construit à côté est vraiment génial. Évidemment, c'est chauffé, il y a location, il y a prêt de casques, de patins puis tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment bébé mon affaire là. Mais j'étais allé à quelques reprises cet hiver avec les gars. Puis la première fois que j'étais allé, je vais au comptoir. Puis on dirait que c'était comme d'emblée là, qu'il allait avoir une machine pour aiguiser les patins.
Ah,
fait que je dis au gars, tu sais, c'est combien pour aiguiser les patins? Il dit non, on fait pas ça ici. Puis là, tu fais pas ça ici? Si vous avez tout là-bas, tout est là au grand complet. Il manque juste ça. Vous l'avez commandé, elle n'est pas arrivée, la machine. Non, on n'aura jamais dans le...
Parce là, que je c'est me l'équivalent dit, des patinoires municipales, d'ailleurs.
C'est exactement la réflexion des auditeurs la semaine passée. Tant qu'à le faire, faites-le au complet. Là où je suis en désaccord avec Stéphane Lachance, ça, je pense pas que vous allez m'entendre dire ça souvent, c'est le fait que Bruno Marchand ne peut pas sortir en disant « On est mieux de ne pas dire les coups tout de suite. »
Non, tout à fait.
Ça, ça n'a pas de sens. La patinoire, dans le cas de Duberger, ça s'explique, là. Au moment où on se parle, parce que on avait un prix qu'on vous a présenté. Ce prix-là est encore bon. C'est ça que ça va coûter faire la patinoire. Là,
il y avait
ça coûte...
600 000 de plus, finalement.
Bon, mais ça, 500-600 000, 1 million de plus, on s'entend qu'on est quand même dans un éventail raisonnable, là, je dirais.
Ça, on n'a pas doublé le prix.
Malheureusement, c'est ça, mais c'est quand même la réalité de nos jours. Mais après ça, l'augmentation de plusieurs millions de dollars vient du fait qu'on a décidé d'ajouter des bâtisses parce qu'il y a eu des demandes par la suite qui ont été faites. T'sais. Mais là, c'est sûr que c'est très politicien d'utiliser cette carte-là en disant « Regardez bien le tramway, il va nous sortir la carte. » C'est sûr qu'il va y avoir des dépassements de coûts à un moment donné, à quelque part. Le seul projet d'infrastructure qui n'a pas eu de dépassement de coûts, puis où ça a été mission accomplie. C'est la promesse que Régis Labeaume nous avait fait avec le centre Vidéotron, puis on avait respecté le budget.
Là, le budget Morgane, pour l'amphithéâtre.
Pour l'amphithéâtre.
On avait sorti de ce budget-là le stationnement puis un tas d'autres affaires. Là.
Oui, puis après ça, ben, on a déplacé le grand marché là aussi pour que le chiffre d'affaires de l'espace complet compte avec l'ancien pavillon de la jeunesse qui est le pavillon Guy Lafleur maintenant.
Ouais. On a dépassé dans le beurre avec le système pour payer le parking. Souviens-toi, il aurait fallu que tu ailles payer ton stationnement à la fin du show en dedans avant de sortir.
Non.
Puis tu passes ton ticket à Guérit. Tu te souviens pas de ça?
Le goulot d'étranglement.
Tout,
ouais. Mais c'est comme à l'hôpital.
Oui, mais à l'hôpital.
C'est quand tu vas à l'hôpital, tu payes.
Tout le monde sort en même temps.
Non, c'est ça.
C'est
effectivement.
Ça là, la différence. Quand, après un show, tu veux rentrer chez vous, c'est déjà compliqué de sortir du stationnement, mais si en plus tout le monde se retrouve à payer en même temps au même endroit.
À payer en même
l'horreur.
Temps, puis à devoir faire valider son ticket quand il sort. Quand tu sortes après.
Ça fait aucun sens.
Je peux pas croire que quelqu'un a pensé à ça.
C'est pour ça que ça nous prend un tramway, les filles.
Et voilà.
Avec un tramway, pas de ticket de parking à payer.
Hey, on a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe sur la 20 en direction ouest. C'est qu'il y a eu un accident un peu plus tôt cet après-midi à l'auteur de la route Germain. Il y a eu un détour à un certain moment donné parce que les voies ont dû être fermées. Là, ça a été rouvert en partie, mais le mal est fait. Fait que là, il y a énormément de congestion dans ce secteur-là. C'est pas un secteur habituel en fin de journée comme ça, mais c'est ce qui explique le terrain de stationnement qui s'est établi. En terminant, c'est la deuxième fois en quelques semaines à peine qu'il y a canicule en Europe. Et là, on nous parle de plus de 30 degrés depuis 4 jours consécutifs, entre autres du côté de Paris. On est à 100 millions d'Européens qui actuellement sont en train de subir une canicule. Et si vous avez déjà voyagé en Europe, nous ici, là, on a 3 mois d'été, mais on est équipé comme ça, pas de bon sens.
Exact.
On a des piscines. Tu sais, quand tu atterris à Québec, là, ou au Québec, tu vois, il y a des piscines absolument partout. On a des clims ou des thermopompes. On est équipé comme si on vivait dans un pays exotique, même affaire pour l'hiver, tu sais. Eux, c'est vraiment pas comme ça.
Il n'y a pas d'air climatisé. Mm. Moi, je suis allée en France combien de fois, puis c'est l'été, on crève. En Italie, même affaire. Il n'y a pas d'air climatisé nulle part.
Ni dans les transports en commun pour la plupart. Je pense qu'à Londres, il y a une ligne qui est climatisée. Et là, on incite les gens à éviter les déplacements le plus possible, à ne pas prendre le train. On a invité les gens à rester chez eux. Là, on dit que c'est des animaux de compagnie qui sont en train de perdre la vie parce qu'il y a des gens qu'ils ont laissés chez eux, pas de fenêtre ouverte. Puis, ouais, fait que ça a l'air super le fun.
Il y avait un événement aussi, un rassemblement concernant l'augmentation justement des températures dues au changement climatique qui a été annulé à cause de ça. Fait qu'il y a quelque chose de quand même ironique là, quand on y pense, t'sais, d'avoir, comme on avait connu nous ici au Québec il y a quelques années, un événement, un rassemblement sur la COVID qui avait été annulé à cause de la COVID parce que les membres qui devaient se rendre, il y en a plusieurs malheureusement qui étaient affectés de la COVID-19 et qu'il y a quand même quelque chose, tu sais. C'est drôle quand tu lis le titre, mais en même temps, quand tu y penses 2 secondes, t'es comme moi. C'est...
La vraie vie cogne à la porte.
La vraie vie cogne à la porte, effectivement. Je sais pas si vous avez vu ça passer aussi, mais aujourd'hui, il y a un compétiteur d'Ozempic qui a été approuvé par Santé Canada. Oui, mais dans ce cas-ci, c'est pour l'apnée du sommeil.
Ah ouais, hein?
Je trouve que l'information est quand même intéressante. Ça s'appelle le Zepbound, qui est un équivalent médicament pharmaceutique américain, qui a été approuvé récemment par Santé Canada, donc contre l'apnée du sommeil, touchant les personnes souffrant d'obésité.
OK, c'est ça, parce que tu as différents types d'apnée du sommeil.
Ouais.
C'est pas nécessairement toujours le poids qui le cause. Hein?
Non, c'est ça. Il y a des, il y a différents types, comme tu disais. Puis le poids en fait partie. Un peu comme à la base des Ozempic de ce monde et des Wegovy, c'était principalement...
Pour les diabétiques.
Ce qui a été la porte d'entrée, c'est les diabétiques de type 2.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, la différence est là. Parce que les diabétiques de type 1, ça reste une maladie auto-immune, ça ne se guérit pas encore. Tandis que les diabétiques de type 2, il y en a malheureusement... que ça vient avec de mauvaises habitudes de vie. Donc, avec un surpoids, et le diabète de type 2 peut disparaître complètement, peut être éradiqué si tu te reprends en main. Puis il y a des gens qui font du diabète de type 2 puis ça n'a pas rapport du tout avec la forme physique. Là. Ça arrive malheureusement, puis c'est comme ça. Diabète de grossesse, entre autres, est un diabète de type 2. Donc, en général, souvent, les femmes qui en font suite à l'accouchement, ça va revenir dans l'ordre, ça va se résorber. Donc, c'est là que ces molécules-là permettent aux gens d'avoir un sentiment de satiété qui apparaît beaucoup plus rapidement, ce qui fait en sorte donc qu'on mange moins, on perd du poids, et là, oups, on est en mesure de régulariser et peut-être de faire disparaître le diabète de type 2. C'est un peu le même point de chute qui est utilisé, c'est-à-dire la même stratégie, je dirais, qui est utilisée par Eli Lilly, qui est la pharmaceutique en question. Donc, c'est un bloquant aussi de certains récepteurs hormonaux dans le corps humain pour réduire l'appétit. L'apnée du sommeil, c'est une maladie qui provoque des arrêts temporaires, respiratoires, mais assez répétitifs. Puis, ça arrive évidemment lorsqu'on est endormi. Ces arrêts-là sont causés souvent par des obstructions des voies respiratoire pendant le sommeil et ça peut jouer beaucoup au niveau du cou, paraîtrait. OK? Et là, les personnes qui souffrent d'obésité ont souvent donc plus de graisse au niveau du cou. Évidemment, ça cause une obstruction, ça peut aggraver donc les symptômes et l'apnée du sommeil, c'est comme un cercle vicieux aussi de ce que je comprends parce que l'apnée du sommeil va causer évidemment de la fatigue en permanence, ce qui fait en sorte que la machine, le corps... ça fonctionne moins bien, tout est au ralenti. Donc, tout ce qui est justement la satiété, le sentiment de ne plus avoir faim, oups, c'est moins là, c'est moins exacerbé. Donc, les gens vont manger plus et continuer possiblement à prendre du poids. Donc, cette marque-là se positionne en disant, voici nous, si ce médicament-là est donné à des gens qui font de l'apnée du sommeil, ça pourrait les aider.
À condition que l'apnée du sommeil soit causée.
Oui,
par le surpoids,
l'obésité. Donc, évidemment, il faut que ça vienne avec une prescription, de ce que je comprends, donc d'un spécialiste de la santé. Mais c'est quand même 25 % de réduction du nombre d'interruptions de respiration chez les patients qui ont été testés en clinique. Donc, les essais cliniques de Santé Canada, 25 % semble être un chiffre suffisant pour que Santé Canada donne le go finalement. Mais ça ne remplace pas la machine. Fait qu'on continue à dire, vous pouvez peut-être demander à votre médecin si vous faites de l'apnée du sommeil et vous faites de l'obésité, consultez le spécialiste. On pourrait vous prescrire cet élément-là qui vient s'ajouter évidemment à une bonne hygiène de vie et on continue à garder le fameux CPAP là, qui est la machine qui va vous aider à respirer quand même pendant la nuit.
Le collègue Denis Gravel est rendu avec ça depuis maintenant 2 mois.
Pour vrai?
Oui.
Est-ce qu'il voit une différence sur son énergie en général?
Non, il n'en a pas reparlé récemment parce qu'il est plus fatigué. Fait qu'on dirait qu'on a oublié d'aborder le sujet avec.
Parce que ça a changé. Moi, j'ai des amis autour de moi qui ont cherché là, tellement longtemps. Là. Puis tu sais, des prises de sang, puis des examens de la glande thyroïde, ouais. Puis qu'est-ce que c'est ça? Puis finalement, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui allume, puis que c'est, hey, on va te faire faire un test d'apnée du sommeil. Puis ça change des vies vraiment rapidement.
On
là.
A parlé beaucoup avec les auditeurs parce que ça a été long avant qu'on convainque Denis d'aller faire le test. Puis tu sais, en l'espace de quelques semaines, il y avait sa machine, puis ça changeait tout. Puis tu sais, on a des préjugés de penser que c'est des gens qui sont en surpoids, des gens qui vont être plus vieux. Il y a plein d'auditeurs qui nous ont écrit. Moi, depuis la vingtaine, depuis la trentaine que j'ai ma machine, ça a changé ma vie.
Il y a plein, vraiment plein de monde qui en ont, mais ça peut faire peur. T'sais, moi, je le vois, certaines personnes qui ont été diagnostiquées, mais qui tardent avant de vouloir adopter
la machine.
Oui, ils ont peur de la machine.
Hey, tu vois, il y a une couple de semaines, on a reçu Béatrice Robichaud de Pantera Dentale. Eux font une espèce d'appareil, ça ressemble à un appareil dentaire, là, qui peut corriger l'espace de la mâchoire. Tu parlais d'un taux d'obstruction.
Ouais.
Là. Fait que, t'sais, pour certains, il y en a même qui vont utiliser et la machine
Et cet appareil-là.
Et cet appareil-là pour essayer de régler leurs problèmes.
Mais c'est fou à quel point. Ça aussi, là, c'est un autre dossier. On pourrait partir longtemps sur ce sujet-là. Mais tu sais, toute la dentition, les os de la mâchoire aussi.
Saviez-vous qu'on est un des pays où on fait le plus d'orthodontie?
Non, je ne savais pas ça.
Oui.
Mais
ça semble-t-il qu'ici...
C'est vrai qu'il n'y a comme plus personne qui est dans le croche.
Ben, t'sais, honnêtement, t'sais, avec les nouvelles technologies aussi, les Invisalign de ce monde, c'est pas comme les broches, nous,
que
je sais pas si vous avez porté ça quand
ah,
vous
oui,
étiez jeune. Ben, moi, j'ai des amis qui ont eu des broches pendant plus longtemps. Ils ont eu des broches dans la vie. Depuis que je les connais,
plus
ils ont eu des broches plus
que
longtemps
pas.
Que pas. C'est ça.
Faut que je compte mon traumatisme. J'ai eu mes broches en secondaire 2, puis c'était pas les broches en porcelaine. Là. C'est les vraies
en
broches
métal,
en métal au complet avec les élastiques, puis... Dans les semaines avant la rentrée, on allait au parc, puis il y avait un petit gars que je trouvais cute, puis il avait l'air de me trouver cute, puis tout. Puis quand je me suis fait poser mes broches, je l'ai recroisé dans l'autobus pour aller à l'école, il a fait « Ah, Arc, t'as des broches!
Ah! » Pou-petite! Oh, t'imagines, tout petite Véro.
Ah, c'est une petite Véro, là. Cute.
Oh.
Comme
ouais,
dans
moi aussi,
les films.
J'ai eu des broches, mais si vous voyez mes dents, vous allez voir que je ne suis pas allée jusqu'au bout du processus puis que je me suis tannée.
Moi, je ne porte pas les petites affaires. J'ai pas de fil en arrière, fait que ça bouge aussi.
Ah, oh, écoute. Mais là, je me dis, c'est correct aussi d'avoir les dents croches. À un
naturel.
Moment donné, tout le monde a des belles dents. C'est bien fatigant.
T'sais, tu ne peux pas avoir la perfection non plus, mais c'est sûr que tout ce qui est... Je pense que l'hygiène dentaire en général, plus que parce que les dents droites, c'est a priori, à mon avis, à moi, plus une question esthétique que
viable. Quand ta mâchoire ne ferme pas, quand tu as des problèmes... C'est sûr, c'est important, mais on s'entend que c'est beaucoup pour des raisons esthétiques.
C'est beaucoup pour des raisons esthétiques en général que les gens vont y aller a priori. Puis après ça, ben là, c'est peut-être le dentiste ou le spécialiste qui va finir par dire « Ouais, ben là, effectivement, tu sais, ta mâchoire ferme mal, comme tu disais, ou tu mastiques pas bien. » Puis on apprend dans les dernières années, là, c'est nouveau, ça aussi, qu'il y a plusieurs maladies du cœur qui peuvent être causées justement par la gestion de l'hygiène buccale.
Les gencives, entre autres, les inflammations.
Les gencives, les inflammations. Puis en même temps, c'est correct parce que c'est la porte d'entrée du corps.
Oui, c'est drôle,
c'est par là
parce que
tu nourris la machine.
Quand j'avais lu qu'il y avait un lien entre se passer la soie dentaire et des maladies cardiaques, moi, je pensais que c'était le phénomène du ce qu'on appelle le troisième facteur, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu te passes la soie dentaire que t'as pas de maladie cardiaque, c'est parce que tu te passes la soie dentaire que t'es une personne qui prend plus soin de soi.
Soin.
Donc,
okay.
T'as moins de crise cardiaque. C'est comme des fausses relations,
en
des
général.
Faux liens de causalité. Mais finalement, c'est vraiment à cause des infections aux gencives que les gens développent d'autres maladies. C'est fou, pareil.
Mais c'est ça. Mais l'éducation par rapport à ça, tu sais, bref, tout ça pour dire que...
C'est un beau grand tour, hein?
C'est un très beau grand tour. Je me souviens
pas. On est rendu où, là?
Où est-ce qu'on est parti? Le nouvel Ozempic, oui, c'est ça. Mais sachez-le, ça existe. Puis oui, la machine, ça change vraiment des vies. On reçoit plein de textos là, par rapport à ça. Ça fait un mois que j'ai ma machine. C'est un changement dans ma vie majeur. J'ai 37 ans. Ça doit faire au moins 10 ans que je faisais de l'apnée du sommeil. Mais c'est pas à cause du surpoids que j'ai ce problème-là. Ça aussi, effectivement. Il y a des gens pour qui ça arrive dans leur vie puis ça n'a rien à voir avec le surpoids. Donc, c'est sûr que ce dont on vient de vous parler, ça ne vous touche peut-être pas. Les broches aussi. Broches enlevées le 5 février 1995. Et j'ai encore mon fil collé derrière les dents.
Je suis tellement contente de pas
un peu malade. Surpris qu'ils tiennent encore.
Je comprends pas comment tu peux te passer à soie dentaire avec ce maudit fil-là en arrière.
Ben pas vraiment. Il faut que tu achètes des petites brosses.
Ça rentre pas.
Non, puis ça fait pas une aussi bonne job. Non.
Mais tu sais, ce dentiste-là qui t'a fait ça, là, tu peux-tu, s'il te plaît, y demander qu'il s'occupe des nids de poules dans la ville? Si le fil tient là depuis 1995, d'après moi, ce gars-là, il est capable de nous aider pour nous régler notre problème une bonne fois pour toutes.
Trouvons-le. Faut le trouver.
Faut le trouver. Jeff, on veut savoir c'est qui le nom de ton dentiste, s'il te plaît. Vous écoutez une émission qui s'appelle Le Retour de Boulevard 102.1. C'est comme ça qu'on va vous accompagner dans vos fins de journée pendant la période estivale. Véronique Bergeron, Antonine Iacarini, moi-même, Nathan Meilleur, je suis... choyé d'être ici, très bien entouré, mesdames, je vais le dire. Ben, j'aimerais ça que ça lève assez chaud là pour qu'on parte en tournée à un moment donné, espérons-le. Continuez à nous texter 971-1021 si vous avez quelque chose à dire, aussi 780-1021. C'est de plus en plus difficile sur le réseau routier. N'hésitez pas si vous voyez quelque chose ou vous avez des renseignements et évidemment, vous êtes en position de le faire. On fait une courte pause et on est de retour dans quelques instants. Le retour.